Buongiorno.
Vous aimez le cinéma?
Beaucoup.
Cinérama.
Qu'est-ce que c'est?
Actualité cinéma et tout le reste.
Ça te satisfait?
Intensément.
Sur Divergence FM.
J'aime bien discuter des films, vous voyez, et échanger des critiques.
Cela ne peut que nous réunir.
Prenez le chemin habituel. La radio.
Ici,
la radio.
Avec nous.
Le silence va plus vite à reculons.
Eh bien, je vous écoute.
Bonjour et bienvenue à l'émission Cinérama, émission de cinéma hebdomadaire sur Divergence FM. Nous sommes le 8 juin. Bonjour Marine. Alors on va le refaire. Bonjour Marine.
Bonjour.
Et bonjour Michel Princet.
Bonjour.
Voilà, alors c'est la voix d'un invité que vous entendez, puisqu'on parlera de la soirée cinéma cubain qui se déroulera eh bien, demain au cinéma Nestor Burma. Et avec toi Marine, de quel film allons-nous parler?
Alors moi cette semaine j'ai été voir Gianni et les femmes, j'ai été voir le nouveau film des frères Dardenne, Le gamin au vélo. Et nous aurons la minute Tree of Life, comme chaque semaine, puisque j'étais la dernière à ne pas l'avoir vue.
Voilà,
c'est chose faite.
Sachant que Martin, la semaine dernière, a fait une critique plutôt forte contre le film de Terrence Malick. Quant à moi, eh bien, je vous parlerai de London Boulevard de William Monaghan, qui sort aujourd'hui. Et puis, on retrouvera en toute fin d'émission Adrien, qui nous parlera eh bien, de la dernière absurde séance au cinéma Utopia. On l'aura par téléphone. Voilà, deux invités dans cette émission. Mais avant toute chose, eh bien, nous allons commencer eh bien, par le film de Neil Burger, Limitless, qui sort aujourd'hui. Alors, si je te demande, Marine, de me donner sur le champ l'énoncé du théorème de Pythagore.
La base d'un triangle isocèle, quelque chose comme ça.
Michel, une idée sur la théorème?
Non, moi je suis presque purement littéraire. Alors là,
d'accord. Bon. Donc tout le monde sèche un peu. Alors même si notre mémoire a bien dû enregistrer à force de répétition que le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés.
Ah oui, hein,
et oui. Eh bien, il en va de même pour retrouver une date historique aussi banale que la date où Charlemagne fut couronné empereur d'Occident. Eh non, toujours un blanc, hein. Eh bien, c'était un 25...
800.
Ah, 800. Ah, et c'était un 25 décembre.
Mais 800.
Oui, voilà. Ouais, mais un point pour Michel. Ouais, mais... Alors, si on fait appel à notre mémoire, elle peut nous faire grandement défaut. On en a la preuve. Alors, la faute à quoi? Eh bien, le créneau horaire dédié à Cinérama n'est toujours pas remplacé par une émission sur les sciences cognitives. Donc, on ne répondra pas à cette question. Et le film de Neil Burger, qui a déjà réalisé L'Illusionniste, n'y répond pas non plus. Mais Limitless part d'un postulat assez simple. Nous n'utilisons que 20% de notre cerveau. Et si quelqu'un met la main sur une substance qui dope ce cerveau limité et flemmard, eh bien il atteint des capacités de calcul, de mémorisation, d'intuition qui pourraient lui permettre de changer de vie. Et Eddie Mora, Bradley Cooper, qui l'interprète et qui est aussi l'interprète de Very Bad Trip, est un loser. Il aimerait bien écrire un bon livre, mais ne le peut pas. Plus d'idées, plus d'envie. Il est tellement au ralenti que sa copine le quitte. Ça ne marche pas bien fort jusqu'à ce qu'il rencontre son ex-beau-frère qui lui fait un cadeau de première main, une pilule d'NZT, un produit pharmaceutique révolutionnaire qui lui permet d'exploiter son potentiel au maximum. Et de loser sans inspiration, il passe à super calculateur humain. Il se souvient de tout, appréhende mieux les situations et il lui faut une journée pour apprendre une langue dont il n'a que faire. Alors on le comprend assez vite, sa vie bascule. Cette fameuse pilule d'NZT aurait été bien bénéfique à Luc Chatel, notre ministre de l'Éducation qui a séché sur un problème que les CM2 sont censés résoudre. C'était dans l'émission matinale de Jean-Jacques Bourdin.
10 objets identiques coûte 22 euros. Combien coûtent 15 de ces objets?
Donc 10 objets au total, 22 euros.
10 objets identiques coûtent 22 euros. Combien coûtent 15 de ces objets? C'est la question posée dans le cahier d'évaluation des élèves de CM2.
Eh bien, ça fait 16,50.
Non.
Et non, monsieur Chatel, c'est 50. Le cerveau d'Eddie Mora, baigné par la pilule d'NZT, aurait tout de suite senti en quelques millisecondes que 16,50 pour 15 objets, c'est un nombre plus petit que 22 euros pour seulement 10 objets. Alors non seulement la réponse est fausse, mais elle défie le bon sens. Mais revenons à Limitless.
Donc, Eddie Mora, c'est vous. Très bien, je vous donne une chance.
Et si grâce à un simple comprimé, vous pouviez avoir tout ce que vous voulez? Un cachet par jour et mes capacités sont devenues illimitées. J'ai appris le piano en 3 jours. Les maths sont devenues utiles et fun. Je savais tout sur tout.
Grazie mille.
Depuis quand tu parles italien?
Et si vous aviez la possibilité de devenir une version parfaite de vous-même?
Eddie Mora, s'il possède ces pilules DNZT qui valent malheureusement cher, parviendra à changer sa vie de bout en bout, à tel point qu'il deviendra un autre homme. Alors comment les obtenir? Comment va-t-il les exploiter? C'est là-dessus que repose le scénario de ce thriller qui lorgne timidement sur la science-fiction. Alors timidement, car nous n'en saurons pas beaucoup plus sur le fonctionnement de cette pilule, exit les explications pour laisser place au suspense. L'idée originale est de raconter une histoire avec une drogue qui n'est pas mise au point pour vous faire rire, mais qui vous aide à être davantage productif. Limitless n'est pas un mauvais film, même si son sujet est traité de manière assez lâche. Par exemple, l'écrivain loser qui écrit un best-seller aurait peut-être mérité qu'on s'attarde sur le processus de création. Mais dans Limitless, le temps file vite et on ne s'attarde pas à ses considérations. Le film est même un savant saupoudrage de second degré qui lui permet d'éluder les questions qu'il pose sur les fameuses limites. Alors autant le dire tout de suite, le pragmatisme américain à l'œuvre dans le film avec une dose de second degré donne forcément au bonheur, au bien-être une réponse vénale. Si tu es riche, ça compte pour ton bonheur évidemment, mais c'est quand même mieux si tu es super riche et que tu as une belle voiture et une belle femme. Même si un des personnages secondaires, la brute russe, a une manière bien à lui de décupler ses capacités. Alors en parlant de personnages secondaires, Robert De Niro réalise une bonne figuration avec un personnage sans épaisseur, donc inutile de se déplacer pour lui. En fait, il n'y en a que pour le héros et Bradley Cooper qui est quasiment de tous les plans et qui s'en tire bien. Le scénario lui réserve d'ailleurs plusieurs visages que la mise en scène traduit par des effets de lumière et de rythme. Quand il est loser, les tons sont gris et ses cheveux sont gras. Quand il gobe la substance, le monde devient plus beau, très coloré. Quelques artifices maintenant possibles avec le numérique font de Limitless un objet cinématographique très actuel. Alors évidemment, le fond est délaissé pour la forme du thriller bariolé, mais ça reste du bel ouvrage pour peu qu'on aime les histoires un poil alambiquées qui se terminent bien. Limitless sort aujourd'hui au Royal et au Méga CGR et aussi au Gaumont Multiplex. Et non, Cinerama n'est pas une émission musicale, pas encore, le créneau n'a toujours pas été récupéré. Alors on va parler en revanche bien de cette soirée cinéma cubain avec vous, Michel.
Oui, avec plaisir.
Et donc, eh bien, on va aussi parler de l'association qui organise cette soirée, hein, c'est Cacassi. Zola. Cocosi-Zola, c'est ça ?
Il faut apprendre, hein, parce que vous allez en savoir chaque fois un peu plus de cette association. En fait, en réalité, c'est un collectif. Donc, né de deux associations, donc assez actives sur la place de Montpellier. Montpellier-Cuba Solidarité et Saint-Sala, qui envoie en fait une association du Brésil, qui représente le Brésil. C'est complètement ouvert, donc on espère bien en accueillir d'autres à l'avenir. C'est notre deuxième présentation, la première ayant lieu le 24 février de cette année, donc encore très très jeune, et compte tenu du succès assez fort que nous avons obtenu pour une première fois en février, nous espérons pour cette fois-ci, avec une soirée intégralement consacrée au cinéma cubain, donc pouvoir attirer beaucoup de personnes, donc au cinéma Nestor Bourma de Saint-Leuve pour demain.
Alors le cinéma cubain, on ne peut pas dire que ce soit un cinéma conséquent, hein ?
Ah bon, non, là, par contre, là, je m'inscris complètement en faux.
Eh bien, vous êtes là pour répondre à ce genre d'accusation.
Oui. Non, le cinéma cubain, non seulement il est extrêmement conséquent en termes de quantité, produisent beaucoup de films, et en termes de qualité, il ne faut pas oublier qu'il y a depuis pratiquement 50 ans maintenant exactement, un institut qui s'appelle l'Institut d'État, Institut cubain des arts et de l'industrie cinématographique, qui a produit des films d'extrême qualité et qui généralement se voient assez facilement, sont assez bien distribués en France. Pas tous, mais les plus connus se passent en France et dans beaucoup de festivals.
Bah, les plus connus, c'est peut-être Fraises et Chocolat, notamment de Thomas
Gutiérrez. Oui, voilà, c'est vrai que sa thématique a attiré beaucoup de personnes. Et d'ailleurs, c'est le même metteur en scène qui a réalisé le film que nous présentons en deuxième partie pour la soirée de demain. C'est-à-dire Juan Carlos Tabillo.
Ah bon, Ah oui, 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 ils étaient co-réalisateurs sur le film.
Il était avec, il était avec Thomas Gutiérrez Alea, qui malheureusement nous a quittés depuis, enfin, il y a quelques années, là, pas très longtemps. Et ils avaient réalisé ensemble Fraises et Chocolat et Guantanamera. Mm.
Et autre film aussi qui est passé sur les écrans français.
Qui a connu sa carrière. Oui,
effectivement, oui. Ouais. Alors, parlons de cette soirée. Donc, c'est au cinéma Nestor Burma, finalement, qui fait un bon accueil, hein, en tout cas à votre association et puis à d'autres.
Oui, oui.
Ça commence à 19h avec Son para un sonero.
Sonero, alors. Elson, c'est un genre musical qui est né en fait de la fusion de rythmes africains et hispano, disons, espagnol, et dont l'origine on peut la situer autour de Santiago de Cuba. Alors, Son para un sonero, c'est comme un hommage à l'un des grands, l'un des pionniers, mais en même temps quelqu'un qui est très actuel donc de cette musique de son. Sonero, celui qui crée, qui produit le son. En l'occurrence, il s'agit de Adalberto, qui est natif et qui a passé une bonne partie de sa carrière à Camagüey, une ville magnifique du centre de l'île. Et ce documentaire, qui s'intitule donc Son para un sonero, est un hommage à sa musique, mais aussi à sa vie, à ses pas comme artiste et comme personne, disons, dans sa ville et dans l'île de Cuba en général. Ce qui fait l'intérêt, autre que le film est extrêmement intéressant pour ceux qui s'intéressent au cinéma cubain et à la musique cubaine, c'est qu'il sera présenté en présence de la réalisatrice, qui s'appelle Lourdes de los Santos, et que nous avons pratiquement attrapé au vol, puisqu'elle était de passage à Montpellier pour quelques jours, et donc nous avons modifié la date en fonction de pouvoir
de sa
obtenir
présence,
sa présence, et qu'elle puisse dialoguer effectivement avec le public, sachant qu'elle se débrouille pas si mal en français. Donc, c'est la première partie à 19h. Nous avons une deuxième partie, plutôt un intermède musical, avec un jeune musicien qui s'appelle Sergio Vallejo, donc qui appartient à un groupe qui s'appelle Kusukita, et qui fera un intermède musical, s'il ne pleut pas, si Dieu est avec nous, sur la place Renaudel, entre les deux films, c'est-à-dire entre ce film documentaire et le film de fiction, dont nous pouvons parler maintenant, qui s'appelle Liste d'attente, en deuxième partie à 21h.
Voilà, de Juan Carlos Tabio.
Tabio, voilà, c'est ça, qui est un film qui a maintenant une dizaine d'années, l'année 2000.
Alors, pourquoi avoir choisi ce film? Parce que finalement, vous aviez le choix, hein, si le cinéma cubain est si conséquent.
Alors, pour être honnête, ce n'était pas le premier choix, mais bon, sans rentrer dans les détails, vous connaissez, je pense aussi bien que moi, pour être spécialiste du cinéma, les difficultés des droits de distribution pour certains films qu'on pense trouver facilement, et puis on se rend compte d'un moment, ah non, les droits sont caducs, on ne peut plus les avoir, il faut chercher un DVD, oui, peut-être, mais quand même, il faut demander l'autorisation à l'auteur ou sinon à la société de distribution. Donc finalement, on est retombé sur un classique dont on a pu avoir la copie en 35 mm et avec en plus le petit clin d'œil aux difficultés de beaucoup de Montpelliérains actuellement en termes de, ça vous le découvrez si vous allez voir le film, en termes de moyens de transport. De quoi s'agit-il, si vous me permettez d'expliquer déjà,
d'ores et déjà, il le faut.
non sans dévoyer toute la trame et disons le canevas et le scénario disons, dans lequel se déroule le film. Liste d'attente, de quoi s'agit-il? Tout simplement d'une gare, quelconque gare de bus à l'intérieur de Cuba, où le bus n'arrête pas de ne jamais arriver. Si je puis dire, les gens attendent, les heures passent. Alors au départ, chacun, bien sûr, dans son rôle, avec son attitude, son masque social, plus ou moins bien, travaillé. Et au fur et à mesure que les heures passent, voire, je n'en dirais pas plus, voire peut-être un jour, deux jours, effectivement, on s'aperçoit que les gens sont amenés à revoir un peu leur relation avec leur prochain, c'est le cas de le dire, trop proche pour certains, effectivement, puisque le bus n'arrive toujours pas. Il est question de réparer un bus local, ça prend du temps. Il est question de peut-être profiter d'un bus de touristes qui passerait dans le coin, mais c'est beaucoup plus cher. Et là, effectivement, il faudrait peut-être s'inscrire justement sur une liste d'attente, d'où le titre du film, parce que par priorité, on suppose que les personnes invalides, des femmes enceintes ou des personnes de ce genre auraient priorité pour monter s'il y avait un bus qui se présentait avec deux ou trois places. Donc, ne nous trompons pas, c'est pas un drame, c'est une comédie, mais qui, au-delà de l'apparence, va bien plus loin, effectivement, que de l'idée de faire passer un moment au spectateur. Pourquoi? Donc, parce que, tout simplement, le bus, on n'arrive pas à le réparer parce qu'il n'y a pas de pièces de rechange, par exemple. Et à ce moment-là, nous revoyons effectivement un des problèmes, je dirais presque endémiques de la Cuba d'aujourd'hui, le blocos, l'embargo, comme on le dit ici, où effectivement il est extrêmement difficile à trouver des pièces de rechange. Pour, alors, en faute de pièces de rechange, on attend un autre bus, etc. etc. Donc c'est, et puis surtout, je voudrais insister, parce que ça a à voir un peu avec le titre de notre collectif et aussi de l'association Montpellier-Cuba Solidarité, on se rend compte combien une situation qui peut apparaître en apparence un peu dramatique, parce que bon, il y a des enfants, il faut les nourrir. Comment ceux qui sauvent toute cette petite communauté, un petit peu obligée par la force des choses à rester ensemble malgré sa volonté, c'est la solidarité. La solidarité qui s'installe entre les différents acteurs de ce mini-drame qu'est ces personnes en attente justement d'un autobus dont on ne voit jamais ni la couleur ni l'arrivée. Donc, c'est tout l'intérêt de ce film, ce côté humain qui s'inscrit dans un cadre humoristique, mais vraiment au deuxième degré.
Voilà, donc critique sociale et puis mise en avant de la solidarité à l'intérieur d'un pays qui effectivement, c'est dur de penser quelque chose sur Cuba. Alors il y a un réalisateur français qui s'était amusé à ça, c'était Bruno Podalides, donc le frère de l'acteur, hein,
oui.
qui dans Versailles, Rive Gauche, je crois, s'était amusé à faire dire à son personnage finalement un coup, oui, je comprends Cuba, Fidel Castro c'est un chouette type. Et puis dans une autre séquence, ben non, finalement Cuba c'est peut-être pas si merveilleux que ça, et c'est pas un chic type. Nous de France, on a du mal quand même à avoir un avis tranché sur ce pays.
Justement, vous pourriez peut-être mettre ensemble, je sais pas, sans exagérer, une dizaine de personnes ensemble à parler sur, prenons un sujet bateau, les droits de l'homme à Cuba. 3 jours après, les mêmes, ils seraient toujours pas d'accord. Donc, on a voulu éviter pour cette première soirée Cuba, justement, d'aborder directement des thèmes de type politique, parce qu'on se disait que c'était vraiment stérile, ce serait nous emmener sur un terrain. Il faut d'abord Cuba, il faut le connaître de l'intérieur. Il n'y a pas meilleur moyen de se faire sa propre idée sur Cuba que d'y aller. Et si possible, donc, d'y voyager dans des conditions type les autobus, par exemple, même si parfois il faut attendre un peu. Cela dit, entre parenthèses, les touristes attendent beaucoup moins que les nationaux. Ce n'est pas les mêmes lignes de bus, justement, vous le verrez dans le film. Hein. Donc, aller à Cuba, se faire sa propre idée, et pour les débats, et ça apporte toujours quelque chose. Cuba est tout et son contraire. Il ne faut jamais oublier que Cuba, c'est une île. C'est comme un poil à gratter à côté d'un géant impérialiste qui lui mène la vie extrêmement dure. Pratiquement 50 ans de blocos, d'embargo, avec extrêmement de difficultés de toutes sortes, y compris économiques. Cuba a beaucoup du mal à subvenir à ses propres besoins sur le plan de l'économie, de la culture, mais qui s'en sort, qui trouve toujours des solutions de rechange, comme des pièces de rechange. Ça fait un peu penser aux vieilles voitures. Il n'y a plus de pièces, mais on les fabrique. Et alors, des idées, ils en ont à foison. Et je pense que Cuba peut nous apprendre beaucoup de choses en termes de droits humains, entendu effectivement dans le sens de la solidarité, de l'aide et de l'ingéniosité aussi pour trouver des solutions aux problèmes les plus inattendus, quoi.
Donc, pays de la débrouille.
En
tout cas, ça se verra dans ce film, liste d'attente. Et puis, il y a le côté effectivement musical. Alors, Wim Wenders était allé justement à Cuba, nous avait ramené le Buena Vista Social Club.
Oui.
Donc là, ce qui est intéressant, c'est aussi de voir avec ce documentaire réalisé par une Cubaine,
voilà,
comment on parle de la musique. Hein.
Alors, oui, je précise que c'est important que ce documentaire a déjà été présenté une fois il y a 2 ans. Lorsque Montpellier-Cuba Solidarité, donc là je m'écarte un peu du collectif Cosisola, donc simplement en parlant de Montpellier-Cuba Solidarité, avait organisé une semaine du cinéma cubain en novembre 2009. Et Lourdes était déjà venu, avait présenté son film, mais bon, un public relativement restreint, là aussi ça va être restreint, mais ce sera d'autres personnes ou d'autres qui voudront le revoir. Et c'est vraiment une spécialiste de la musique cubaine et qui a réalisé un film qui se laisse vraiment voir avec beaucoup de plaisir, aussi bien sur le plan cinématographique que musical. Le fait qu'elle soit là, c'est vraiment un plus, parce que ça permet effectivement d'entamer un dialogue sur le film d'abord, éventuellement sur d'autres aspects.
Sur l'aspect politique aussi de ce pays qui change. Voilà.
Voilà. Donc, c'est important. Ce sera le choix des spectateurs, hein, de voir s'ils s'engagent sur ce terrain-là.
En tout cas, ce sera musical et ce sera aussi bien du cinéma. C'est demain, la soirée cinéma cubain, donc au cinéma Nestor Burma. Ça commence à 19h, c'est ça?
À 19h. En mettant un peu à 20h15 au plus tard, nous sortons sur la petite place si la météo nous le permet. La musique, et à 21h, le film de fiction.
Le film de fiction,
avec dans les deux cas, un débat ouvert et possible sur les deux films.
Eh bien, merci beaucoup, voilà. Michel Princey.
Ben, merci beaucoup à vous.
Et revenez quand vous voulez, dès que vous organisez d'accord. encore quelque chose dans ce cinéma municipal, Nestor Burma.
Très bien, merci beaucoup.
Voilà, c'était la musique d'Adalberto Alvarez que vous entendrez dans le documentaire qui donc sera projeté demain. Marine, un oui. film que tu n'as pas aimé. Hein.
Non, mais bon, voilà, on va quitter Cuba pour aller vers l'Italie. Donc Gianni Di Gregorio, le metteur en scène de Gianni et les femmes, donne ici une suite à son premier film, Le Déjeuner du 15 août, si vous vous souvenez. On y retrouve donc le personnage de Gianni, qu'il interprète lui-même. Un homme de 60 ans, à la retraite, tyrannisé par les femmes de sa famille. Sa mère, une aristocrate dépensière et hypochondriaque, déjà personnage important du déjeuner du 15 août. Sa fille, étudiante et glandeuse, qui fait la fête chez lui. Et sa femme, castratrice et débordée, qui ne regarde même plus, si ce n'est pour lui donner la liste des courses. Soumis et sans joie de vivre, Gianni se fait reprendre en main par son meilleur ami qui le persuade de prendre une maîtresse. Très rapidement, on se rend compte que le film ne sera pas du tout la comédie espérée. Il n'y a en réalité que peu d'humour, car le ton est trop cruel et désenchanté pour prêter à rire, tant les efforts de Gianni pour séduire les jeunes femmes autour de lui sont répétitifs et inutiles. Ses mésaventures se voudraient pleines d'ironie et d'humour noir, mais sa course à la jeunesse est trop pathétique pour faire sourire et provoque même un sérieux ennui. On doit également subir un ramassis de clichés sur l'Italie, sans pour autant que cela rende le film attrayant, ainsi qu'une vue exhaustive de toutes les beautés italiennes, les brunes, les blondes, les siliconées et les chanteuses d'opéra. C'est justement là que le ton du film pose problème. Je ne pense pas jouer à la féministe primaire en trouvant que le regard posé sur la gente féminine est lamentablement réducteur. Les femmes dont il est question dans le titre sont réduites à des parasites lorsqu'il s'agit des membres de la famille de Gianni, ou alors elles ne sont que des projections de ses fantasmes, des bouts de chair après lesquels il court, mais avec qui il n'aura jamais aucun dialogue. Seul le personnage de sa mère, une vieille femme tyrannique de 95 ans qui ressemble à une petite momie, offre quelques scènes assez savoureuses. C'est donc un film qui ressemble à son personnage, amer, déprimé, sans suffisamment de vitalité pour nous intéresser, un film qui n'aurait pas dû arriver en France tant il semble être fait pour la télévision et même la télévision italienne. Difficile à classer tant il laisse indifférent, Gianni et les femmes n'est en tout cas absolument pas ce renouveau de la comédie à l'italienne que l'on nous annonce.
Eh bien voilà qui est dit. En tout cas, Gianni et les femmes, si vous voulez juger quand même sur pièce, c'est...
Ça passe encore au Diago.
Voilà. Alors, on passe cette fois-ci eh bien, à London Boulevard, qui est réalisé par William Monahan. C'est son premier long-métrage. Alors, William Monahan n'est pas un inconnu, pour autant, puisqu'il est le scénariste des Infiltrés de Martin Scorsese, de Kingdom of Heaven, décidément, et Mensonges d'État de Ridley Scott, et de Hors de contrôle de Martin Campbell. Alors, des films qui sont plutôt Burnet. London Boulevard met en scène deux mondes que tout oppose, celui d'une jeune star du cinéma interprétée par Keira Knightley et l'univers des bas-fonds de Londres où navigue un voyou interprété par Colin Farrell, impeccable.
Ça fait du bien d'être dehors, hein ?
Ça va. Je retournerai pas en taule, Billy. Jamais, pour personne.
Alors te fais pas choper.
J'aurai un job pour toi. Tu es à droit ?
Avec un marteau et tout le tralala ?
Vous l'avez vu dans des films.
Ils sont tout le temps devant chez moi.
Les paparazzi.
Ils franchissent parfois le mur. Est-ce que vous pourriez les jeter dehors ? Vous voulez bien me protéger ?
Oui.
Il a dit oui. Lui qui sort de prison et qui avait de bonnes intentions comme filer droit ou au moins s'éloigner de la castagne qui l'avait envoyé en tôle. Mais rien n'est simple, Mitchell va devoir résister. Alors d'abord au charme de l'actrice qu'il embauche pour virer des paparazzis qui squattent le voisinage, puis pour ne pas finir haché menu par le chef de la pègre londonienne qui le veut à sa botte. Alors autant Mitchell, dès qu'il sort dehors, rencontre des problèmes parce qu'il continue à traîner dans le milieu des prêteurs sur gage, autant la jeune star de cinéma reste cloîtrée chez elle parce que dehors, l'appétit des paparazzi est féroce. Alors tout le porte à rester confiné dans les bras de la jeune brune, fragile, et elle aurait des raisons de l'être puisqu'on apprend au détour d'un dialogue savoureux qu'elle serait la femme la plus souvent violée dans le cinéma européen s'il n'y avait pas Monica Bellucci. Alors il est assez étonnant de voir chez un scénariste aussi apprécié que William Monahan des faiblesses dans le scénario. Outre le fait qu'on sache assez vite vers quoi il veut nous emmener, il y a des personnages secondaires qui sont placés là sans malice. Sa sœur est un peu légère, elle s'attire des ennuis. Et puis eh bien Mitchell doit sans cesse veiller comme s'il n'avait pas assez de problèmes. Ou encore l'homme qui vit sous le toit de l'actrice interprétée par l'excellent David Thewlis, mais dont on se demande ce qu'il fait là. Et j'avoue que c'est assez énigmatique. Alors le scénario est donc plutôt artificiel. Les personnages sont créés autour du héros Mitchell et on a le droit à quelques pirouettes. Alors si quelques personnages arrivent à prendre un peu d'épaisseur et de vraisemblance, le chef de la mafia locale, lui, en tient une bonne couche. C'est un gros plein de soupe raciste qui se donne le droit de vie ou de mort sur quiconque lui résiste. Et quand il se lance dans l'exécution, eh bien, il raconte à sa victime une partie de son enfance traumatisante. Une manière de nous expliquer comment on devient méchant alors qu'on nous expliquera jamais comment Mitchell est passé du côté des brigands. Lui qui file ses ronds à un clochard, qui ne veut plus donner de coups, qui épargne ses potentielles victimes, qui se plierait en quatre pour sa sœur. Il a fait fausse route et l'amour avec une actrice lui tend les bras. Mais que croyez-vous qu'il va arriver ? C'est tout le sel de London Boulevard. On va donc en déduire que Mitchell est un bon, tellement le chef qui lui cherche des noises est un méchant. Mais ça n'était pas franchement nécessaire. Les rédemptions chez les criminels au cinéma, eh bien on en trouve beaucoup et sous toutes les coutures. Et on n'est pas obligé de passer par des faire-valoir. Le film est donc, me semble-t-il, un peu bancal et perd en intérêt avec tous ces personnages qui s'ajoutent pour le spectacle. London Boulevard n'est ni parfaitement un drame, ni un film réaliste sur les bas-fonds et les paillettes, ni un thriller parfaitement abouti, ni une romance. C'est un peu tout cela. La mise en scène bénéficie entièrement à Colin Farrell avec des plans en contre-plongée quand son costard impeccable et sa belle gueule ne suffisent plus à crever l'écran. Et la bande-son empruntée aux années 60 se fait bien remarquer et dope le rythme qui est plutôt bien mené de ce côté-là. Il n'y a rien à redire. London Boulevard se laisse quand même regarder, autant pour ses scènes de super-héros sans peur ni reproche que pour ses dialogues. Après, il ne faut pas en demander trop. La facture est assez classique et le scénario un peu faible.
Tu te souviens de moi ?
Comment t'as eu ce numéro ?
T'as vraiment cru que j'allais te laisser te balader partout peinard ?
Il dit que tu lui es redevable.
Non, je lui dois rien.
Tu es un gangster et tu m'appartiens.
Il y a d'autres choses que je peux faire, et j'ai peut-être envie de les faire.
Si je tombais amoureuse de toi, qu'est-ce que tu ferais ?
N'importe quoi.
T'es devenu un complice maintenant. C'est comme pour le mariage, mon vieux, c'est pour la vie.
Qu'est-ce qui sert pour ma sœur ?
Tout le monde le sait. Écoute, ceux qui en ont après moi, ils pourraient te faire du mal.
T'es malade ! Gant les tuera tous. Il tuera tous tes proches.
Je veux que tu quittes le pays en attendant que je règle le problème.
Tu viendras avec moi ?
Oui, je viendrai. Mais je dois faire un truc avant.
Tu ferais mieux de quitter Londres.
T'inquiète pas.
Toi et moi, on serait les meilleurs. On nous oublierait pas.
Tu veux pas que je sois un gangster. D'ailleurs, personne ne le veut. Parce qu'on pourrait plus m'arrêter. serai le premier à mourir.
Voilà, ça castagne, il y a de la musique. Enfin, n'empêche, c'est de bonne facture hein, quand même, malgré le scénario un peu étrange. Michel, puisque vous êtes là, vous êtes resté dans les studios, vous qui présentez cette soirée cubaine demain au Nestor Burma, est-ce que vous avez l'habitude de regarder des films américains, par exemple, le cinéma américain?
Que moi j'appelle états-unien, excusez-moi, pour la nuance. Ouais. Oui, bon, ouais. Voilà, l'Amérique c'est un grand continent, pour ouais. moi, ceci mis à part. Dernièrement, je suis allé voir Tree of Life, l'arbre de vie.
Ah, ben on va en parler.
Justement.
Alors. Allez.
Et bon, ça m'a beaucoup intéressé, mais ça m'a posé des questions. Enfin bon, je ne suis pas spécialiste pour en faire la critique. À moins
ah
que
mais non,
puisse
mais
donner
il
mon...
s'agit de réception, hein. Vous pouvez dire comment vous l'avez reçu.
Bien, j'avais une grande attente par rapport à Terrence Malick. J'avais adoré son dernier opus, comme on peut dire, c'est-à-dire Le Nouveau Monde.
Oui.
C'est-à-dire que je suis assez branché sur cette thématique.
On comprend.
Alors, voilà. Mais L'Arbre de vie, honnêtement, j'ai trouvé qu'il a voulu peut-être trop en faire, que c'était un petit peu une superposition de deux films dans un. J'ai pas bien vu... Enfin, au niveau émotionnel, je suis resté un peu frustré. C'est comme s'il y avait effectivement ces superbes images donc cosmiques, disons, sur la nature, voilà, pour nous faire sentir comme quoi nous étions si petits dans cette petite planète avec nos petits problèmes, et qu'en même temps, bon, quand on passe à la famille, tout l'infiniment petit devient infiniment grand du point de vue des personnes, mais je n'ai pas bien vu le liant. Enfin, ce qui pouvait amener effectivement une partie du film à l'autre, j'ai pas ressenti en tout cas.
Le lien justement en fait c'est le drame qu'ils vivent, parce que c'est vrai que quand on est confronté comme ça à des drames dans sa vie, on se pose forcément des questions sur la vie, sur la mort, on remet tout en question. Et je pense que du coup c'est quand même assez logique la manière dont on passe d'un drame humain à des grands questionnements métaphysiques comme ça.
Oui, mais je sais pas si le bon, ça n'apparaît pas pour moi que le père de famille ou son épouse, enfin, et cette perception forcément de la vie, enfin, telle que je les vois vivre avec leurs problèmes, je l'ai pas ressenti comme tel. Bon, maintenant, je vais le revoir. Hein, j'ai envie de le revoir parce que justement, je dis, c'est le genre de film qui pose des questions et peut-être en une deuxième lecture, je le ressentirai autrement. Mais moi, c'est vrai que mon critère, c'est souvent ressentir quelque chose de l'intérieur plus qu'intellectuel. Et au niveau émotionnel, je me sentais un peu en deçà, quoi, de mes attentes.
C'est étrange, parce que moi, j'ai trouvé ça très émotionnel, plus que finalement intellectuel, parce que je ne sais pas où finalement... Oui, bah, voilà. Ces grandes images aériennes, ou même ce dinosaure qui arrive, ou cette image de nébuleuse, fin, finalement, ce n'est pas très intellectuel. C'est un peu comme 2001, et puis Kubrick qui dit « Mon film est à voir, il n'est pas forcément à comprendre.
Oui, » oui.
Enfin, j'ai l'impression que chez Malick, il y avait aussi ça. Est-ce qu'il y a des choses à comprendre, forcément?
Je suis d'accord. Je pense qu'il ne faut pas non plus trop chercher à interpréter. Il faut se laisser porter par les images.
Ouais. Oui, mais ce que je trouvais, c'est que voilà, il y a le côté émotionnel, pour moi, se réduisait un petit peu aux belles images, effectivement, du début et de la fin. La relation entre cette partie du film et cette histoire de famille assez commune, finalement, je ne l'ai pas senti. Je n'ai pas senti ET, la préposition, ou le mélange, la mixture, ce n'est pas une synthèse. Je trouve que c'est un peu, pour moi... un petit peu un raté du film, enfin, c'est mon point de vue.
D'accord.
Bien sûr.
Par contre, moi, après, le film a énormément plu, j'ai trouvé ça vraiment sublime, mais il y a quand même quelque chose qui m'a beaucoup dérangé, c'est l'omniprésence de Dieu.
Ah oui, ça c'est...
parce que, disons qu'au bout de 2h30, je pense que j'ai le droit d'être cinéphile et athée, et j'ai pas envie d'entendre pendant 2h30 que Dieu est la réponse à tout. Et à ce niveau-là, le film ne fait même plus du prosélytisme, c'est carrément du bourrage de crâne, quoi. Enfin, à la fin, c'est un petit peu plombant quand même.
Alors moi, je vais essayer de le défendre, Malick, parce que j'aime bien ça. Mais c'est vrai que cette question de Dieu aussi, il la prend forcément dans la famille, hein, qui est quand même une famille des années 50 américaine, conservatrice, avec un père. Il y a à chaque fois avant le repas les bénédictions et ainsi de suite. C'est une éducation très dure. Et voilà, c'est pour ça que Dieu, finalement, il le laisse apparaître un peu partout. Mais est-ce que les images cosmiques font entendre Dieu? Moi, j'avoue que je suis resté un peu imperméable à ce discours-là. Ça m'a pas gêné. Enfin, après, on peut mettre le grand horloger, on peut mettre tout ce qu'on veut, ou rester dans une position complètement athée et se dire que oui, il y a plein de mystères là-dedans. Mais bon, c'est vrai, hein, Dieu est répété sans cesse, parce que là, ce sont les hommes qui parlent. Enfin, voilà, c'est la voix off, là, après. C'est,
Et puis la scène sur la plage, à la fin, Martin l'a comparé à une pub Kenzo. Moi, j'ai trouvé que ça faisait pub pour secte. Vraiment, la scène interminable ouais. où pendant 15 minutes, il marche, n'est pas très utile. Et enfin, bon, voilà.
Oui, elle conclut, oui. Tout un tas de propositions qu'on a entendues tout le long du film. Mais bon, c'est vrai que, comment vous l'avez vécu cette scène d'ailleurs, oui. Complètement irréaliste. Hein,
Oui, oui, c'est qui dure là,
ouais. un certain temps. Tout le monde pense qu'elle dure. Hein. Ça, c'est...
Bon, Malick a toujours adopté un style assez lent donc, dans sa séquence, qui parfois se justifie. Et là, j'ai trouvé quand même un peu lent, effectivement, le rythme général du film, et sans que la lenteur apporte quelque chose forcément, ni au ressenti, ni entre à la compréhension. Enfin, je trouve c'était étiré, voilà, un peu artificiellement.
Ouais. Bon, ben c'est fini sur Malick cette fois-ci. Ça fait trois émissions.
Même, pour conclure juste, je pense que c'est par contre tout à fait logique et normal qu'un film de cette envergure-là ait eu la Palme d'Or, contrairement au film des Frères Dardenne.
D'accord.
Ah, là, je suis d'accord.
Dont tu vas nous parler.
Voilà. Transition.
Oui.
Donc, tout de suite, on va écouter la bande-annonce, le gamin au vélo.
Oui, concierge.
C'est Cyril, je voudrais rentrer chez mon père.
Quel Cyril ?
Cyril Katoum, mon père habite au 5e.
Il n'habite pas ici, il est parti, hein, moi.
Mais il y a son nom sur la sonnette.
Ton père n'habite plus là, il est parti. Faut que t'acceptes.
Je pourrais venir chez vous les week-ends.
Ça se décide pas comme ça, je dois en parler avec ton directeur.
Il sera d'accord, il cherche tout le temps des familles d'accueil. Vous pouvez lui parler maintenant. Et toi ?
Quoi ?
T'habites pas un copain pour toi ?
Pourquoi je me mêle ?
T'habites où ?
Chez Saint-Lanca, la coiffeuse près de la place.
Moi c'est Wes. Wesker, tu vois dans Resident Evil ?
Qu'est-ce que tu fais là ? Tu cherches partout depuis 2 heures.
C'est pas de sa faute, tu étais en bas de la ville avec un pneu crevé, je l'ai emmené au garage.
Toi, je t'ai rien demandé, donne ton vélo.
Non, je rentre tout seul.
Tu viens avec moi. Papa ! Papa !
Je voulais te téléphoner, puis je me suis dit que ça servait à rien de t'appeler, faut que tu dises que je pouvais pas venir.
C'est pas grave. Quand est-ce qu'on se revoit ?
Je t'appellerai sur ton téléphone.
Samedi prochain ?
Je vais essayer. T'inquiète pas, je t'appellerai.
Si t'arrêtes pas à me téléphoner, je reviendrai te voir ici.
Qu'est-ce qu'il t'a dit, ton père ?
Il m'a dit qu'il m'appellerait. Peut-être samedi. Je lui ai donné mon numéro de GSM.
Non, rien que de penser que je dois le voir, je stresse. Non, il vous aime bien, occupez-vous de lui, c'est la seule solution.
C'est vous qui veux voir, pas moi.
Bah, il m'oubliera. Non, je vous en supplie, occupez-vous de lui.
Vous devriez le dire vous-même.
Alors, la trame du film, comme d'habitude chez les frères Dardenne, est simple et ancrée dans un milieu social difficile. Cyril, un petit garçon d'une cité belge, se retrouve abandonné par son père qui le place en foyer et ne veut plus le voir. Dès lors, il n'a qu'une obsession, le retrouver, ainsi que son vélo. Il va tomber, au sens propre comme au figuré, sur une coiffeuse qui l'aidera dans sa quête, entamant ainsi avec lui une relation aussi fusionnelle que difficile. Les deux personnages vivent une sorte de coup de foudre qui sera suivi de rendez-vous ratés, ébauchant une complicité par laquelle ils finiront par s'apprivoiser. On retrouve ici les thèmes déjà traités dans les précédents films des frères Dardenne, la promesse, l'enfant ou le fils, tels que la misère sociale, les rapports père-fils ou la rédemption. La mise en scène reste sobre à l'extrême, sans tomber pour autant dans l'austérité la plus totale que l'on subissait dans Rosetta, par exemple. Et l'histoire, malgré ses aspects sombres, est filmée avec une telle vitalité que l'on ne plonge jamais ni dans le drame absolu, ni dans l'ennui. Les acteurs sont des habitués des frères Dardenne, comme Olivier Gourmet ou Jérémy Régnier, avec en prime une Cécile de France très crédible, qui retrouve son accent belge pour l'occasion et nous offre heureusement un bien meilleur jeu que dans Au-delà de Clint Eastwood, son dernier film. Mais celui qui rafle tout est assurément Thomas Doré, qui interprète le gamin du titre et livre une composition vraiment étonnante malgré son jeune âge, tout en violence contenue et en énergie débordante. Les frères Dardenne semblent parvenir encore un peu plus à faire mûrir leur cinéma, allant à l'essentiel, sans jamais tirer trop sur la corde sensible, ni utiliser les artifices habituels du drame. Seule dérogation à leurs règles, l'usage de virgules musicales, qui apparaissent cette fois aux différents moments clés du difficile cheminement de Cyril, la lumière estivale également qui éclaire le film, et une sorte de happy end qui échappe tout de même de façon maîtrisée au pathos. Ils osent un peu plus d'émotion en parvenant à fuir la pesanteur et la morale pour aboutir à un film toujours aussi efficace mais sensiblement plus doux et surtout très réussi. Donc je vous le recommande vivement, promis, vous ne vous endormirez pas. Et en plus c'est court, ça dure 1h30 et ça passe tous les jours au Diago à 14h, 16h et 20h.
Ah oui, ça passe encore pas mal, mais c'est peut-être dopé aussi par le prix à Cannes, parce que...
Il y a
sans
beaucoup
surprise,
de monde qui va le voir. Ouais, ouais.
Sans surprise. Il a eu un prix, sachant que les frères Dardenne sont, je crois, ceux qui ont eu le plus de prix à Cannes.
Ils n'ont jamais
crois
été sans rien recevoir, en fait.
Voilà, oui. Ils n'y vont pas pour rien. Non, voilà. Ils font pas le déplacement pour
chaque
rien.
Chaque année, ils y sont. Chaque année, ils ont quelque chose.
À l'inverse de Pedro Almodovar, qui, lui, par contre, fait chou blanc à chaque fois. Merci Marine. On va maintenant parler bien d'un autre événement, un gros événement, c'est la ressortie des films de Stanley Kubrick. Alors il y a une rétrospective, on a parlé déjà eh bien, de ce qui se passe du côté de la Cinémathèque à Paris, hein, cette exposition. Sur Kubrick. C'est d'autant plus facile qu'il n'a pas fait non plus tellement de films, hein. C'est un peu comme Terrence Malick. Surtout vers la fin, il prenait un peu le temps de faire ses films. Alors, la rétrospective au Diagonal, puisque c'est là-bas qu'elle va se dérouler, commence cette semaine avec 2001, l'Odyssée de l'espace, qui est projeté le soir, je crois, à 21h15. Et puis aussi le film Lolita, donc film de 61 pour Lolita. Et 2001, l'Odyssée de l'espace, je crois pas me tromper en disant que c'est 68. On va écouter eh bien, un petit hommage à Stanley Kubrick et notamment à ce 2001 en espérant retrouver ensuite eh bien, Adrien qui nous parlera de l'absurde séance, la dernière de l'année.
Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis un super ordinateur Carl, cerveau analytique de recherche et de liaison.
Votre identification vocale est terminée, vous êtes en règle.
Nous devons cependant vous informer qu'une analyse préliminaire de vos calculs nous indique de façon formelle que votre superordinateur, Carl, a fait une erreur en prédisant la défaillance. Je répète, a fait une erreur en prédisant la défaillance.
J'espère, messieurs, que cet incident ne vous inquiète pas.
Écoute, Dave, je ne peux pas te définir ce que c'est, mais je sens quelque chose d'étrange.
Cet écart ne peut être attribué qu'à une erreur humaine.
Il n'y a jamais eu, à ma connaissance, un seul superordinateur déconnecté. Eh bien, je ne sais pas du tout comment il prendrait ça.
Lorsque nous avons détecté sa présence, nous avons d'abord pensé que c'était une roche magnétique qui affleurait à la surface.
Il y a 3 semaines, un vaisseau spatial américain, Explorateur 1, a commencé son long périple en direction de Jupiter.
L'équipage d'Explorateur 1 est constitué par 5 hommes et un exemplaire de la dernière génération de superordinateur CARL500. Nous avons bavardé avec le cerveau analytique de recherche et de liaison, que l'on appelle par le sigle ou le prénom de Carl. Bonjour Carl, comment ça va à bord ?
Bonjour Monsieur Hammer. Tout est parfaitement en ordre. Aucun appareil de cette série n'a jamais fait d'erreur, ni même déformé un renseignement. Nous sommes tous, pour autant que ces mots aient un sens précis, parfaitement au point et incapables de nous tromper.
L'histoire du cerveau électronique qui se révolte. Alors ça, c'est complètement stupide.
Je sais que j'ai pris quelques décisions hâtives et irréfléchies ces derniers temps. Mais je puis vous donner l'assurance la plus formelle que mon travail redeviendra tout à fait normal.
2001, c'est un film sur l'intelligence, sur le développement de l'intelligence et sur le développement de la curiosité.
J'ai toujours la plus grande confiance dans l'issue de notre passionnante mission. Et je veux vous aider à la mener à bien.
C'est un film extrêmement complexe qui brasse des tas de problèmes et je trouve étonnant qu'on puisse passer à côté de ce film.
J'ai peur.
C'est un film qui, Kubrick le dit lui-même, qui n'est pas expliqué, qui délivre un message non-verbal, ce film qui se regarde.
J'ai peur, Dave.
C'est la première fois qu'on voit des tas de choses et qu'on développe des tas de problèmes que la science-fiction écrite a développé mais qui n'étaient jamais venus au cinéma.
Mon cerveau se vide.
On ne peut pas croire à ce dieu transformé en parallépipède noir.
On parlait d'un objet mis à jour sur le sol lunaire. Au début, je ne faisais aucun cas de ces racontars, mais j'ai de plus en plus de peine à les ignorer lorsque je les rapproche d'autres faits d'apparence insignifiants.
Cet objet, c'est du paganisme, c'est de la basse superstition, etc.
Oh.
En dépit des précautions minutieuses que vous preniez dans la sphère pour m'empêcher de vous entendre, j'ai pu observer le mouvement de vos lèvres. Cette mission est trop importante pour moi. Je ne puis tolérer que vous la mettiez en péril. Je crois que nous n'avons plus rien à nous dire. Adieu.
L'exposé qui va suivre a été enregistré avant votre départ de la Terre. Pour des raisons de sécurité de la plus haute importance, le contenu de cet exposé n'a été communiqué jusqu'ici qu'au superordinateur Karl à bord de votre vaisseau spatial.
Voilà, c'était mon petit hommage à ce grand, grand film classé quasiment numéro 1 hein, dans tous les classements qu'on peut trouver sur le cinéma mondial. Alors, on dit souvent, oui, d'accord, il est considéré comme le number one de tous les films, mais peu de personnes osent dire que c'est leur film favori, voilà, parce que c'est aussi un film qui est pas forcément évident. Voilà. Alors, même si Kubrick dit qu'il est avant tout visuel, c'est vrai que plein de gens, et surtout à l'époque, se sont dit « Mais finalement, est-ce que j'ai vraiment envie de voir ça quand je vais voir un film de science-fiction ?» Voilà. Mais malgré tout, ça reste un des grands films. Si vous ne l'avez pas vu au cinéma, c'est tout simplement un grand moment que vous allez vivre. Et ça se déroule donc au Diagonale. Et c'est cette semaine. On va passer, mais cette fois-ci, à complètement autre chose. C'est même, on va dire, l'inverse, hein, puisqu'on va retrouver le dernier film de l'Absurde Séance. Bonjour Adrien.
Bonjour Vincent, bonjour Marine.
Alors, bonjour. Tu me confirmes, hein, Poultrygeist n'a rien à voir avec 2001, l'Odyssée de l'espace. Hein.
Pas grand-chose, non.
Alors, parle-nous quand même de ce dernier film et pourquoi tu l'as choisi pour la dernière de cette saison de l'Absurde Séance.
Alors, Poultrygeist, c'est un film donc, de Lloyd Kaufman qui est réalisé en 2006. Et en fait, dès le départ, puisque je travaille avec le cinéma Utopia, on s'était dit que Poultrygeist était un film qu'il fallait qu'on passe déjà parce qu'il collait à l'esprit de l'Absurde Séance dans son côté trash, dégueulasse, gore, bis, tout ce qu'on veut. Et également parce que il colle aussi au cinéma Utopia, disons que le message du film Poultrygeist, qui est un message vachement écolo, altermondialiste, était tout à fait adapté et au cinéma et à la séance. Et donc on s'est dit que c'était le film parfait pour terminer, puisqu'en plus de ça, il est inédit en France.
Alors ça c'est bien déjà, hein, ça c'est une grande première, mais pour le coup, est-ce que les images sont violentes là? Elles sont vraiment violentes?
Alors, oui, quelque part, il n'y a pas pire, mais c'est tellement, il y a tellement de surenchères dans le trash, dans le gore, que ça ne fait pas peur, quoi. C'est pas fait pour faire peur, c'est plus fait pour rire.
Alors, j'ai vu quand même, hein, je me suis permis de regarder la bande-annonce, parce qu'il y en a une qui est censurée, l'autre qui n'est pas censurée, tu penses bien que je suis allé voir celle qui n'est pas censurée, et c'est quand même à base de tripes, voilà, enfin, il y a des choses autour aussi, des paix, enfin, j'ai vu, c'est quand même assez étrange et très second degré, hein.
Second, je dirais même 40e.
Ouais, d'accord.
c'est quand même un des films les plus dégueulasses que j'ai pu voir, parce qu'il y a quand même une scène de toilette qui dure 10 minutes, où on voit un mec sur le trône avec tous les bruits qui vont, le mec qui explose, enfin bon,
oui.
Il y a tout ce qu'il faut.
Donc c'est vraiment l'absurde séance. On peut dire combien a coûté ce film? Tu en as connaissance?
J'en ai pas connaissance, non.
Et tu as une idée, une fourchette? Parce que ça appartient quand même à une frange du cinéma bien à part. Hein.
Honnêtement, non, je ne pourrais pas dire un chiffre. Je pense que c'est un de leurs budgets les plus conséquents. Mais je veux pas trop m'avancer non plus. En tout cas, c'est un de leurs films les plus aboutis. La Troma, c'est des spécialistes des films à petit budget. Dès leur création dans les années 70, ils se sont spécialisés dans le trash, dans le sexy, et Poultrygeist, en fait, c'est un peu c'est le dernier film de Lloyd Kaufman en date, donc qui date de 2006. Là, il vient d'annoncer un nouveau Toxic, donc Toxic, le personnage culte. Créé par Lloyd Kaufman et Michael Hirst, donc qui est la figure de proue de la Troma. Et donc, Poultrygeist est son dernier film en date, et il me semble que c'est un des plus des plus appliqués, des plus réussis, et je crois que c'est l'avis de pas mal de monde.
Eh bien, merci. En tout cas, j'espère que ça aura donné envie aux auditeurs d'aller à cette absurde séance, Marine.
Et rappelons qu'il faut venir déguisé en poulet zombie, c'est ça, et en hamburger géant.
Oui, ça peut, oui. Ça serait sympa si tout le monde était déguisé, ouais.
Ouais.
C'est une piste qu'on lance à chaque séance qui ne marche pas forcément. Mais là, c'est la dernière. Je pense que c'est l'occasion de bien s'amuser, en plus devant ce film qui est quand même bien délirant.
Oui, et puis, bon, visiblement, c'est une perle du genre. Hein, donc, vous aviez bien raison de terminer avec lui.
Et puis, oui, voilà, c'est la dernière absurde séance, donc je pense qu'il y a... Et puis, on a une ou deux surprises en première partie aussi, qui me semblent intéressantes à voir.
D'accord, des petits courts-métrages, donc.
Non ? Il y a de ça.
D'accord.
Il y a d'autres choses. Je ne peux pas en dire trop, parce que sinon, ça casse la surprise, mais il y a des choses intéressantes.
En tout cas, tu redonnes l'horaire de cette dernière absurde séance de la saison ?
Alors, c'est demain soir à 20h au cinéma Utopia, donc arrêt de tram Saint-Éloi.
Merci beaucoup, Adrien.
Merci à toi, merci à vous.
Voilà, donc on a le choix entre absurde séance hein, et puis soirée cubaine. Hein, voilà, ça se passe d'un côté à l'Utopia et puis de l'autre côté au Nestor Burma.
Il faut aller au cinéma de toutes les façons, hein, c'est génial le ciné.
Voilà, et en plus, si on ne veut pas aller à ces deux soirées spéciales, il reste 2001, il en reste plein d'autres. Notamment tous les films qu'on a chroniqués aujourd'hui dans Cinérama. J'ai juste le temps eh bien, de vous parler de l'actualité. En dehors de ces soirées spéciales. Demain, Jean-Michel Frodon, autrement appelé Jean-Michel Billard, hein, parce que c'est un pseudo qu'il a emprunté au Seigneur des Anneaux, Frodon, qui est ancien directeur des Cahiers du cinéma, ancien chef de service cinéma au Monde, il sera demain à 18h30 à l'auditorium du Musée Fabre pour présenter son ouvrage Histoire du cinéma français, de la nouvelle vague à nos jours, aux éditions des Cahiers du cinéma. Il sera en compagnie de Monique Carco-Macaire, qui est maître de conférence à la faculté. Et cette rencontre sera suivie d'une projection d'extraits de films commentés par Karim Djiati, de Languedoc-Roussillon Cinéma et de Cécile Jodlowski-Perra. Donc ça c'est demain. Le 10 juin, c'est à Montpellier, il y a le Kino Montpellier qui propose la vidéoprojection à 20h au Centre Rabelais des courts-métrages Kino faits pour l'occasion sur le thème « Allez les Verts » qui sont présentés par leurs auteurs. Le vendredi, encore une fois à 20h30 et dimanche 12 juin à 16h30, c'est le Ciné Rétro. C'est le film Rubber de Quentin Dupieux qui sera projeté et c'est au Ciné Mistral de Frontignan. Et le principe de ce ciné rétro, c'est qu'en fait, il y a des ouvreuses, enfin, voilà, on revient au cinéma d'antan. Et le 10 juin à 7, le ciné-club Ciné 7 Oies propose à 20h au cinéma Comédia la projection débat autour de l'immeuble Yacoubian de Marwan Ahmed. Voilà, c'est à peu près tout pour l'actualité. On peut dire que ça se concentre quand même sur le jeudi. Hein. Demain, voilà, c'est vraiment du cinéma partout.
Si je peux rajouter, j'ai oublié d'en parler, mais bon, il y a quand même des bus pour aller au Nestor Burma, c'est les 15 et le 25. Et si c'est complet, il y a toujours une liste d'attente possible.
Non, puis il y a moyen d'y aller tranquillement en vélo ou en voiture. Hein. Il y a des places quand même à Celle-Neuve, hein, ça va.
Oui, il y a deux, trois places près du supermarché. Ouais, on se débrouille.
C'est clair. On parle aussi des films qui sont programmés au cinéma Utopia pour cette semaine. Toujours Animal Kingdom, Coup d'éclat, Juste entre nous, L'étrangère, L'homme d'à côté, L'œil invisible. Film argentin, La solitude des nombres premiers, qui a été chroniqué ici, Le discours d'un roi, chroniqué, Le magicien d'Oz. Bon, ça c'est une reprise, Les femmes du sixième étage, qui... Finalement une très très bonne carrière puisqu'il est sorti c'était fin janvier je crois ou début février. Il y a Où va la nuit, il y a le film Pina, Tomboy et puis Tous les soleils. Voilà, ça passe encore du côté d'Utopia. Non, Les femmes du sixième étage, Michel, c'était pas...
Je l'ai vu au Cinémed. J'ai même réussi à courir après Carmen Maura et il soutirait donc un petit autographe et j'ai passé un bon moment, mais voilà, je m'explique difficilement tant de mois de succès, mais bon, c'est peut-être le niveau d'aspiration qui est plus bas que le mien. Mais on passe un bon moment, oui.
Oui, on passe un bon moment. Voilà, je pense qu'il y a aussi un effet Lucchini sans doute, et puis retrouver aussi ces six femmes, je crois qu'elles sont six.
Ouais, puis
six femmes espagnoles avec Carmen Mora.
Les bonnes,
Carmen
Mora. Bien, oui.
Voilà. Bon, après, ça reste de la comédie, mais moi j'aime bien, en tout cas. Les femmes du sixième étage, comme les films précédents du réalisateur. Ainsi s'achève Cinérama, à moins que tu aies quelque chose à rajouter sur Terrence Malick, Marine.
Non,
non, cette fois-ci, c'est fini.
On arrête d'en parler.
On attend le sixième. sixième opus, c'est ça ?
Oui, je crois qu'il n'en est qu'à son sixième film.
Il va arriver très vite d'ailleurs. Mmh. Ouais, c'est ça.
À la fin du générique, on va écouter un petit hommage à Lolita de Kubrick, donc qui est projeté aussi lors de la rétrospective cette semaine. Et puis dans 24 notes secondes, vous retrouverez. Alors le thème, c'est Truffaut et Marlène Jobert, j'imagine. Voilà, je sais pas. Enfin bon, il sera question quand même de musique de film dans 24 notes secondes après Cinérama. On remercie Bruno et le stagiaire dont j'ai peu. Et Théo, voilà, Théo, nouveau stagiaire à Divergence FM, à la technique. Merci Michel.
Merci.
Et bon courage pour demain, cette soirée cubaine, oui, Nestor Burma. Et merci Marine, à la semaine prochaine. Marine.
À la semaine prochaine.
Hubert, en tout état de cause, j'espère que vous ne croirez pas que j'abuse de nos relations de bon voisinage, mais je crois qu'il est temps de vous dire que les voisins commencent à se poser des questions sur vous et votre Lolita.
Quoi cela peut-il les intéresser ?
Ah, vous savez, les gens bavardent.
Cinérama.
Bien. À présent, je vais retrouver mes invités.
Sur Divergence FM.
Excusez-moi encore de vous avoir dérangé. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous téléphoner. Vous faites le 17, c'est facile.
Ah non, c'est le 14.
Non, le 14, c'est les télégrammes.
Mais les pompiers,
c'est le 18. D'ailleurs, si vous voulez vous renseigner, faites le 12. Sans rancune.